Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de Langonaute. Si vous ne connaissez pas encore le blog Langonaute, je vous conseille d'aller y faire un petit tour. Je vous y présente des astuces pour apprendre les langues étrangères, mais surtout et avant tout, c'est un blog sur lequel j'aime partager la découverte des langues et la découverte du monde à travers les langues. Et justement, le thème de ce podcast aujourd'hui, c'est pourquoi apprendre une langue étrangère et quel est l'univers qui se cache derrière les langues étrangères, quel plaisir on peut prendre lors de leur apprentissage. Alors, il s'agit de mon tout premier podcast, donc je vous demande d'être un petit peu indulgent, mais surtout, surtout, à la fin du podcast, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires, ce sera très apprécié. Si comme beaucoup de monde, vous restez vous aussi bloqué sur les cours de langue qu'on a reçus à l'école, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou autres, qui nous sont tombés dessus plus ou moins de façon pas du tout choisie en fait, tout simplement. On n'a pas tellement eu le choix, on a peut-être eu des profs qui n'étaient pas super motivants. Et puis voilà, du coup on reste là-dessus, sur cette impression, sur cette expérience qui parfois nous fait dire qu'on n'est pas bon pour les langues. Non, les langues, c'est pas pour moi. Non, moi, je peux pas parler anglais. Ça marche pas, j'ai essayé. Mais c'est dommage. C'est super dommage parce qu'en fait, cette situation d'apprendre les langues à l'école, c'était pas naturel. C'était peut-être pas le contexte idéal. Vous avez pas choisi, ça vous est tombé dessus comme ça. Et peut-être que si ça venait de vous, de cette envie d'apprendre, de découvrir le monde, tout à coup, c'est quand même une approche complètement différente. Je vous propose donc aujourd'hui de nous pencher sur cette question de la découverte de cet univers bien au-delà des mots, à travers mon expérience, parce que je suis pas tellement en mesure de vous parler de toutes les langues du monde, de tous les univers qu'on peut découvrir, mais j'aimerais simplement vous emmener plus ou moins à l'aventure avec moi. Je vous emmène dans un petit voyage temporel de mon évolution dans l'apprentissage des langues et tout ce que ça m'a apporté, tout ce que j'ai découvert et toutes ces petites étincelles que ça a fait de mon côté. Donc, les débuts, donc comme moi, probablement, si vous avez grandi en France, vous aurez commencé par l'anglais, très souvent la première langue vivante. Alors à mon époque, on commençait en sixième. J'ai eu une chance énorme dans mon école d'avoir une institutrice de primaire qui parlait anglais et qui avait envie de faire partager cette langue dès le primaire aux enfants, dans le but pas vraiment dans le but de nous faire parler anglais, mais de nous faire découvrir l'anglais. Donc les cours consistaient plutôt à des diapos au début, donc on avait des petites diapos, des enregistrements cassettes, etc. Après ça a été des vidéos à regarder, des petits jeux, des petites questions, quel temps il fait aujourd'hui, comment un tel est habillé, des choses comme ça. Très 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 basique. Mais rien que ça, ça m'a permis, arrivé en sixième, de me sentir familière avec l'anglais. Ça n'a pas été une matière qu'on a rajoutée dans mon emploi du temps sans me demander mon avis en me disant « maintenant tu parles anglais ». Et ça n'a pas été difficile de faire cette transition parce que ça me parlait en fait, tout simplement. Et donc je trouve que ça a été une chance énorme. Et pour ça, je trouve que c'est génial que maintenant, dès le primaire, les enfants aient cette introduction à l'anglais où je vois mon neveu, je regarde ses cours d'anglais, il va apprendre un peu de la culture en Angleterre, des choses comme ça. Ça ne va pas forcément être de l'anglais très poussé, mais ça va lui permettre vraiment d'être prêt, quand il sera temps au collège, de se mettre à l'anglais de façon un peu plus stricte, en termes de grammaire, etc. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. Je trouve que c'est absolument génial que tout le monde puisse le faire maintenant. Et donc, j'ai commencé par l'anglais. Et bizarrement, il y a pas mal de monde qui fait un blocage sur l'anglais parce que c'est une langue étrangère, parce qu'on n'a pas eu le choix de l'apprendre. Mais en fait, quand on regarde de près, c'est pas si compliqué que ça. L'anglais, c'est... déjà, c'est le même alphabet que le nôtre. Donc rien que ça, c'est déjà pas mal. En simplifié, parce qu'on n'a pas de question d'accent, de tréma, de cédille, tout ça, non, il n'y a pas, simple. On a beaucoup une grammaire simplifiée aussi. Bon, c'est vrai que les conjugaisons, c'est un peu chaud. Une fois qu'on a compris, c'est bon, mais sur le moment, c'est pas facile. Par contre, il n'y a pas de masculin et féminin. C'est toujours, tout est neutre, à part les animés, bien sûr, entre un chien et une chienne, ou un homme et une femme, forcément, il y a masculin et féminin. Mais si on se met dans l'autre sens, un anglais qui a l'habitude que tout soit neutre, et tout à coup il va devoir apprendre le français, mais imaginez-vous la quantité de vocabulaire à retenir, qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin. Je me souviens d'un anglais qui m'a dit, mais pourquoi une fourchette c'est féminin et un couteau c'est masculin? Pourquoi c'est une porte et un fauteuil? À quel moment vous avez décidé qu'il y en avait un qui était un homme et l'autre qui était une femme? Donc, moi je trouvais ça absolument génial qu'il se pose la question comme ça, et c'est vrai que je comprends complètement ce qui est naturel et ce qu'on a appris tout au cours de notre enfance, et c'est venu tout seul de notre côté. Imaginez qu'il faut que quelqu'un apprenne le français et qu'ils doivent retenir tout ça, mais c'est du par cœur, il n'y a pas de règle. Il n'y a absolument pas de règle en français de savoir qu'est-ce qui est masculin, qu'est-ce qui est féminin. Et quand on se trouve à apprendre l'anglais, bah tout ça, ça disparaît, pouf, il n'y a plus. C'est une table, c'est une chaise, un couteau, tout ça, c'est tout pareil, c'est neutre. Donc ça, c'est franchement, d'une certaine façon, ça enlève quand même quelques blocages par rapport à l'anglais. Il y a quand même des choses qui sont simples, et de prendre conscience de comment ça marche dans l'autre sens pour ceux qui veulent apprendre le français, ça aide aussi à réaliser que bah, en fait, ça marche dans tous les sens. Des difficultés, il y en a partout. Mais c'est absolument pas insurmontable. Donc, on continue dans ma petite aventure. La suite, pour moi, ça a été l'espagnol, donc la deuxième langue vivante que l'on commence. Alors moi, c'était en quatrième, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant. Mais voilà, c'était l'espagnol. L'espagnol, alors là, c'est encore plus facile. Parce qu'en espagnol, comme le disait ma prof d'espagnol, en espagnol, on prononce toutes les lettres. Bon, alors elle le disait en français, du coup, elle ne prononçait pas toutes les lettres. Mais j'ai retenu cette phrase. C'était vraiment pour nous dire, bah, si vous, enfin, voilà, vous savez le lire, c'est le même alphabet, vous savez le lire, vous savez le dire. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est absolument fabuleux. Au passage, ben, l'alphabet se modifie un tout petit peu puisqu'il y a une lettre en plus, la ñ. Les lettres se prononcent différemment, mais ça, c'était déjà en anglais. Mais ce qui est absolument génial, c'est que justement, à travers ces langues qui utilisent toutes le même alphabet, mais qui se prononcent complètement différemment, qui s'écrivent différemment, bon, ça nous ouvre déjà l'esprit sur le fait que ben, y a pas qu'une façon d'utiliser cet alphabet. Il n'y a pas qu'une façon de prononcer ces lettres. Il n'y a donc pas qu'une façon de communiquer, de voir les choses, d'utiliser les lettres, etc. Donc moi, j'ai trouvé ça super génial. J'ai vraiment adoré cette ouverture d'esprit que nous apportent les langues. C'est vrai que c'est ça qu'on oublie. On oublie l'essentiel quand on est à l'école. C'est que l'école n'a probablement pas pour but de faire de nous des bilingues ou trilingues. L'école a plutôt pour but de nous montrer ce qui existe ailleurs, de nous enseigner d'autres façons de faire, et ça on l'a complètement perdu de vue, et c'est vraiment dommage parce qu'on oublie pourquoi on apprend, et c'est un peu dommage. Si on savait pourquoi, peut-être que déjà on arriverait mieux à s'y mettre. Ben voilà, du coup moi c'était mes deux expériences à l'école. Fort heureusement, ça m'a intéressée. J'ai eu, selon les périodes, des profs intéressants et d'autres moins intéressants, mais ça m'a plu. Ensuite, j'ai eu cette chance. Décidément, je crois que j'ai eu pas mal de chance entre l'anglais en primaire et maintenant, où, quand j'étais au lycée, ma grande sœur, qui était à la fac, elle avait eu des cours d'initiation au russe. Donc son prof d'anglais, quand elle était au lycée, proposait, ou gratuitement, comme ça, en supplément, entre midi et deux, apprendre le russe. Et c'était pas du tout dans le cadre du programme scolaire, donc c'était beaucoup plus ludique, c'était plus de l'initiation avec des chansons, etc. Et donc, ma sœur m'a tout simplement appris ses chansons. Donc, je ne savais absolument pas parler russe. Je ne connaissais pas du tout l'alphabet russe. Je n'ai jamais cherché à le lire à ce moment-là. Mais elle m'a appris ses chansons, ce qui fait, d'une certaine façon, une introduction à ces nouveaux sons, à ces nouveaux mots, à ces nouvelles façons de parler, qui étaient, une fois de plus, totalement différentes de l'anglais, l'espagnol et le français. L'anglais et l'espagnol en eux-mêmes étant déjà totalement opposés. Donc j'ai trouvé ça vraiment chouette, et ça m'a tellement plu d'avoir cet autre univers. J'avais déjà l'univers de l'anglais, l'univers de l'espagnol, et je me rendais compte de toutes ces différences qu'il y avait et de comment ça permet d'aborder un pays et une culture d'une façon totalement différente, avec un autre point de vue. Bah, du coup, je me suis intéressée au russe, et de nombreuses années plus tard, on va dire quand même, je me suis inscrite à des cours de russe, donc j'ai appris le russe d'un niveau très simple. Hein, parce que là, par contre, j'avais une prof qui n'était pas du tout une bonne prof. Je devais vraiment être acharnée à vouloir apprendre le russe. Mais je ne suis pas allée très loin. Mais je suis allée assez loin pour que ça m'apporte, une fois de plus, ce que je recherchais en termes de découverte d'un univers. Donc déjà, l'apprentissage de l'alphabet russe, c'est la première chose essentielle à faire quand on va apprendre le russe, c'est de connaître l'alphabet. Et au départ, on peut se dire « Ah, Ça n'a rien à voir, on ne sait pas lire le russe, c'est vraiment des symboles qu'on ne connaît pas du tout. En fait, si, on les connaît carrément. Ces symboles, c'est l'alphabet russe en gros. C'est un mélange entre notre alphabet latin et l'alphabet grec. Donc notre alphabet latin, on le connaît. L'alphabet grec, il apparaît quelque peu dans les cours de maths. Donc les pi, ne serait-ce que pi, voilà. Les sigma, les deltas, les choses comme ça. Ben, si on mixe un peu tout ça, ça donne l'alphabet russe. Ça ne se prononce pas pareil, ça s'utilise différemment, mais en même temps, ça, on l'a déjà vu avec l'anglais et l'espagnol qui ne se prononcent pas pareil que le français, même si c'est les mêmes lettres. Et donc, quand on a compris ça, apprendre l'alphabet russe, bah, c'est pas insurmontable, hein, finalement. Il y a 32 caractères, il me semble. Et on peut vite les assimiler parce que ça nous parle. Une fois passé l'alphabet, quand on se plonge dans le vocabulaire du russe, on réalise que bah, finalement, c'est pas non plus si loin de ce qu'on connaît. C'est pas diamétralement opposé à notre vocabulaire ou à notre façon de parler ou d'aborder les choses. Je parle pas de la grammaire, parce que la grammaire russe, c'est beaucoup. Je pense que ceux qui ont fait de l'allemand ont une meilleure compréhension de la grammaire russe, ont déjà plus de clés en main pour aborder le russe. Moi, avec l'espagnol, pas du tout. Mais pour ce qui est du vocabulaire, si je prends un exemple, mais il y en a des tonnes, un exemple qui m'a marqué, c'est qu'en russe, pour dire une pharmacie, on dit « apteka ». Et apteka, je me dis, ah, apteka, ça sonne un peu comme apothicaire quand même. Donc si vous savez, l'apothicaire, c'est l'ancêtre de la pharmacie. C'était plus une boutique dans laquelle on mélangeait peut-être les plantes, les fioles et des petits trucs comme ça, mais c'est le même principe. C'est là où on trouvait des remèdes. Donc on avait apothicaire en France et on a apteka en Russie. Et quand on arrive à faire toutes ces petites connexions, on réalise non seulement que le vocabulaire en soi n'est pas si dramatique que ça à apprendre, mais en plus, on réalise toute cette histoire qui se cache derrière les mots. Pour que ces mots se ressemblent, c'est qu'ils ont voyagé, c'est qu'ils ont une histoire, c'est qu'il y a quelque chose de commun. Et vraiment, apprendre les mots, apprendre des langues, ça fait aussi découvrir l'histoire du monde. Et c'est absolument fabuleux. Donc quand je vous dis qu'il y a vraiment tout un univers qui se cache derrière les mots, c'est vraiment ça. C'est l'histoire qui se cache derrière, c'est les façons de penser qui sont différentes, les façons d'aborder les choses, d'avoir des points de vue ou d'entrevoir les choses de façon différente. Tout ça, ça se cache derrière la langue. Et quand on parle de la barrière de la langue, mais c'est vraiment ça. Si on ne connaît pas la langue, il nous manque un morceau énorme, énorme. On peut voir le pays de loin, on peut voir les photos, mais ça c'est juste la petite pointe de l'iceberg. Quand on connaît la langue, c'est comme si on plongeait sous l'eau et qu'on découvrait toute cette masse de glace de l'iceberg qui est totalement cachée quand on reste à la surface. Donc voilà, moi ça a été ma troisième étape. Après l'anglais et l'espagnol, je me suis intéressée au russe. Ça a été absolument magique. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et en plus de trouver ça extraordinaire, j'ai aussi eu cette chance d'aller voyager en Russie et de pouvoir échanger avec les gens, de pouvoir en parler, même, je ne vais pas dire faire des grandes conversations, mais ne serait-ce que d'échanger quelques mots sur place en russe, de pouvoir commander en russe au resto ou de choses comme ça, parler en russe à l'hôtel. Mais rien que ça, c'est absolument génial. Et franchement, ça fait super plaisir de se dire, bon, ben voilà, moi je viens dans ce pays et j'arrive à faire l'effort de parler leur langue. Et dans les deux cas, moi ça me fait super plaisir et les locaux, ça leur fait toujours super plaisir de voir quelqu'un qui fait l'effort, qui ne se contente pas de parler anglais. Donc voilà, ça a été ma troisième étape. Et la quatrième et dernière étape pour l'instant, ça a été une opportunité de voyager, ou plutôt d'aller vivre au Japon, une opportunité professionnelle. Le Japon, c'était pas du tout, vraiment pas du tout sur ma liste. Que ce soit le pays, le Japon, ou le japonais, ni l'un ni l'autre. Et pourtant, ça a été une expérience vraiment super enrichissante. Aussi bien sur le plan culturel que sur la découverte de la langue, Et vraiment tout ce qui s'articule autour de ça. Donc comme je te disais, déjà pour le russe, il y a une toute petite partie de l'iceberg, pardon, qui est ce qu'on voit de l'extérieur. Et une fois qu'on y est, ou une fois qu'on s'intéresse à la langue, à la culture, etc., il y a vraiment tout un autre monde qui s'ouvre à nous. Donc dans le cas du japonais, effectivement, quand on regarde le japonais, et en ayant vraiment mes zéro connaissance du chinois, du japonais, etc., on est peut-être parfois même incapable de faire la différence entre du chinois et du japonais. On voit des symboles qui se ressemblent, on ne comprend pas. Et en termes d'écriture, c'est à peu près la même chose. En réalité, le japonais est composé de trois types d'écriture, donc deux alphabets en quelque sorte, qui sont l'hiragana et le katakana, et les kanji, qui sont les sinogrammes, donc les symboles empruntés au chinois. Ces trois types d'écriture, trois systèmes d'écriture, fonctionnent ensemble. Donc, dans la même phrase, on peut avoir les trois. Et c'est ce qui permet, une fois qu'on connaît un petit peu, de voir que c'est du japonais et pas du tout du chinois. Donc, l'hiragana, ça va être ce qui sert à faire des conjugaisons, des terminaisons de mots, des mots de liaison, etc. Le katakana, c'est le même alphabet que l'hiragana, mais plus carré, on va dire, en quelque sorte. Mais c'est le même principe. Et celui-là sert uniquement pour les mots étrangers. Donc ça va être les marques de voitures, les marques de vêtements, de magasins, ou même computer, des choses comme ça qui sont des mots empruntés à l'étranger. Et les kanji, donc comme je disais, sont les mots empruntés au chinois qui, eux, sont extrêmement présents puisqu'ils représentent un tas de choses du quotidien, de la vie, de la conversation, etc. Donc il y a énormément de kanji. Et ces kanji, quand ça représente un verbe, ils vont être terminés par de l'hiragana pour faire la terminaison, la conjugaison. Ils vont être liés entre eux par de l'hiragana pour les articles et les particules qui font la connexion dans la phrase. Donc une fois qu'on connaît ça, rien que de découvrir ça, ça montre vraiment toute une autre façon de penser, une autre façon de structurer les phrases, forcément. Et ça, je trouve ça absolument génial. C'est, même en apprenant le russe, j'étais pas aussi loin de ce qu'on fait en français. Et là, vraiment, le japonais, c'est un retournement complet de tout ce que je connais. Et en plus de ça, donc, j'avais parlé des systèmes d'écriture des chiffres. Donc, on a les chiffres arabes qu'on a appris et qu'on utilise au quotidien. Et au collège, on a appris les chiffres romains, donc, qui nous ont démontré qu'il y avait une autre façon d'écrire les chiffres, qui est quand même... On va dire, en quelque sorte, c'est un peu le même principe. Mais il n'y a pas de question de dizaines d'unités. Il n'y a pas besoin de mettre des zéros pour que le 2 fasse 2000. On met deux fois le 1000, par exemple. Donc c'était déjà une autre façon d'écrire. Et le japonais, qui est formé, qui utilise des chiffres, une fois de plus, empruntés au chinois, bah, c'est aussi... autre chose. Et c'est peut-être même plus proche de la façon d'écrire des Romains, puisque c'est beaucoup basé sur des symboles et pas sur la position du chiffre pour former un nombre. Alors que nous, c'est vraiment la position qui donne la valeur. Donc c'est très... je crois que ça s'appelle, on dit que c'est pondéré. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, le Mahjong, vous avez peut-être déjà croisé ces chiffres sans vraiment savoir ce que c'était. Donc on les voit écrits. Donc moi qui joue au Mahjong depuis que je suis toute petite, j'ai toujours côtoyé ces chiffres. Et maintenant, vraiment, j'ai trouvé ça génial de pouvoir les apprendre, de comprendre comment c'est structuré. Même du coup, les plus gros chiffres, les dizaines, les centaines, les milliers. Il y a même un symbole qui fait 10 000. Donc 100 000, c'est pas 100 000, c'est 10 000, par exemple. Et donc ça fait vraiment partie de tout cet univers qu'on découvre quand on apprend une langue étrangère. Et c'est vraiment là où je voulais en venir, c'est que déjà à l'école, quand on nous apprend une langue étrangère, on ne veut pas seulement nous apprendre à communiquer dans une autre langue. Le but, ce n'est pas qu'on devienne bilingue ou trilingue parce qu'on a l'anglais, l'espagnol, ou l'allemand ou l'italien. C'est vraiment découvrir ce monde, découvrir, se donner un autre point de vue, comprendre comment ça se passe ailleurs, et tout ce qui découle de cette langue, de cette façon d'écrire, la façon de penser, la façon de compter. Tout ça, c'est tellement différent que c'est vraiment le véritable bénéfice qui se cache derrière l'apprentissage d'une langue. Donc c'est vraiment tout cet univers qu'on découvre quand on apprend une langue. Donc je vous encourage, si vraiment vous vous posez la question, pourquoi j'apprendrai une langue étrangère, ou alors si vous avez commencé mais que vous n'êtes pas super motivé, je vous encourage vraiment à creuser au-delà des mots, à chercher les connexions qu'il y a, peut-être avec le français ou l'anglais, selon les langues que vous connaissez déjà, à faire des liens, vraiment se créer des petites étincelles, des petites découvertes qui vont faire que apprendre une langue, c'est quelque chose de magique. Vous n'apprenez pas des mots par cœur, des conjugaisons par cœur, c'est pas juste ça. C'est presque partir en voyage. Voilà, donc sur ces mots, je vous laisse et je vous souhaite un très bon apprentissage des langues. N'oubliez pas d'aller voir le blog langonaute.com où vous trouverez tout un tas d'astuces pour vous aider dans votre apprentissage des langues. À très bientôt sur Langonaute!